Salut et bienvenue dans La Parole aux Indés, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré aux commerçantes et commerçants indépendants d'Angers et ses alentours. On est ensemble pendant une heure avec Sarah pour échanger via visioconférence autour de leurs activités, de l'impact de la crise sanitaire sur leur commerce, mais aussi et surtout de leur volonté de continuer à rester debout en faisant vivre leur jolie structure. Alors au programme aujourd'hui, rencontre avec nos petites pépites locales, leur playlist Feel Good, mais aussi un billet d'humeur, du gel hydroalcoolique et une sélection de morceaux soigneusement mitonnés par nos soins. Vous êtes dans La Parole aux Indés, votre nouveau rendez-vous du lundi à 13h. Installez-vous confortablement, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, 103 FM et partout disponible en streaming et en podcast.
Aujourd'hui, on rencontre Laurence qui a ouvert avec Claude Les Saveurs du Primeur en 2014. Alors, Les Saveurs du Primeur, c'est un magasin de fruits et légumes et épicerie fine qui est au 6 Place Hérault à Angers, qui défend une attache particulière aux productions locales. Moi, j'y trouve tous mes fruits, légumes et bien plus encore, comme des bières de la Florentière, par exemple, depuis plusieurs années maintenant. Salut Laurence, comment ça va ?
Salut, ça va Sarah ? Enchantée de te revoir, en tout cas.
Pareil. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous en dire plus sur l'origine des Saveurs du Primeur ? Qu'est-ce qui s'est passé pour amener à cette ouverture en 2014 ?
Alors, en fait, il y a eu plusieurs raisons. Déjà, par rapport à la connaissance que j'ai avec Claude, hein, ça fait des années qu'on se connaît maintenant, et on habitait dans le sud-ouest à l'époque. Moi, je travaillais pour les Gîtes de France, dans les Landes, exactement. Et Claude travaillait pour un maraîcher qui faisait essentiellement des pêches de vignes, des pêches anciennes, anciennes variétés. Et par le biais des Gîtes de France, j'étais amenée à travailler avec le réseau Bienvenue à la Ferme. Donc, c'est un réseau qui regroupe des agriculteurs qui peuvent proposer de la vente directe à la ferme, mais aussi faire visiter leur ferme, recevoir des gens aussi dans leur ferme pour des vacances à différents niveaux. Ça peut être des campings, ça peut être des gîtes, enfin voilà. Et c'est par cet intermédiaire-là que j'ai pu rencontrer Claude. Puis on a lié amitié. Et il y a vraiment plusieurs années de ça, on s'était lancé une boutade comme ça en se disant « Tiens, ça serait bien de pouvoir monter un petit truc ensemble dans le tourisme lié aux fruits, aux légumes. » Enfin voilà. Et puis les années ont passé. Moi, j'ai changé des Gîtes de France. Je suis passée à l'architecture en travaillant avec des architectes, des constructeurs de maisons individuelles. Et j'ai subi la crise de 2008. C'était déjà la crise. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi rester là-dedans? J'arrivais plus à retrouver de boulot. J'avais subi deux chômage économique, deux licenciements économiques. Et du coup, je m'étais dit, mais il faut que je change de secteur parce que ça ne va plus du tout. Et je suis revenue sur Angers. Mon département, c'est le Maine-et-Loire. Je suis née à Cholet à la base. Et puis, en revenant sur Angers, j'ai quand même regardé un petit peu ce qui se faisait. Et j'ai vu qu'il n'y avait mais aucun primeur dans l'hypercentre d'Angers. Et puis, j'ai vu avec Claude, j'ai dit, mais toi, t'en es où au niveau de ton cursus professionnel? Puis, elle me disait, ben, moi, je stagne, hein. Je dis, ben, écoute, tu veux pas qu'on monte un truc sur Angers? Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est quand même une région très maraîchère. Et depuis que les halles ont été détruites au profit de fleurs d'eau il y a quelques années de ça, ben, il y avait plus de halles. Et uniquement les marchés pour pouvoir se ravitailler auprès des producteurs en direct. Et après, bah, des petits primeurs dans les quartiers d'Angers, mais pas dans l'hypercentre. Donc voilà, c'était notre première affaire. Il fallait quand même qu'on sache un petit peu comment ça se passe. Moi, j'ai suivi une formation. C'est une formation à la BGE pour devenir entrepreneur. Et puis Claude, elle, en parallèle, a été suivie par la Chambre de commerce et d'industrie, qu'on appelle les CCI, qui sont là pour aider les porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs. Et puis, ben, en fait, on a allié un petit peu nos savoirs, nos compétences Chacune, de toute façon, on était vraiment complémentaires dans ce projet. Et puis, ben, on s'est dit, ben, allez, c'est bon, on y va, on se lance. Voilà comment a démarré Saveur du Primeur, parce qu'en fait, c'était un petit peu l'idée de rejoindre nos compétences. Et puis, bah déjà, on est épicuriennes toutes les deux, on aime vraiment les bonnes choses. Et puis, bah, moi, j'avais un petit souvenir de mes grands-parents qui étaient primeurs et poissonniers. Et je me souviens, quand j'étais petite, de servir des fruits et des légumes, de jouer avec les petits sachets, puis jouer surtout à la marchande, quoi. Et voilà, et à l'âge que j'ai aujourd'hui, bah, je réalise mon rêve de petite fille. Voilà.
Alors du coup, au fil des années, vous avez développé votre réseau avec les productrices et les producteurs locaux. Donc, ouais. À Danger et ses alentours, est-ce que tu peux nous en dire plus sur déjà votre politique en fait à ce niveau-là et pourquoi pas nous parler de certaines personnes avec qui vous travaillez et que vous voulez mettre en avant?
Oui, alors en fait au départ, c'est vrai que Claude, elle a quand même maintenant plus d'une vingtaine d'années d'expérience sur la vente de fruits et légumes et on travaille en direct avec des producteurs. Donc c'est vrai que sur cette partie-là, c'est surtout elle qui a géré la recherche des producteurs en fruits et légumes. Et puis après, il y a eu toute la partie épicerie fine et en fait, c'est en allant rencontrer les producteurs de fruits et légumes, quand on leur a exposé un petit peu notre concept de faire de la vente de fruits et légumes dans l'hypercentre d'Angers, ils nous ont dit, mais en fait, vous voulez vraiment de la qualité, des produits qui soient bien travaillés. On pensait faire un petit peu de crèmerie et des œufs. Et puis, en fait, en rencontrant les différents producteurs, ils nous ont dit, mais allez voir mon voisin, il fait des super rillettes, allez voir un tel, il a des vins extraordinaires, faut vraiment que vous travailliez avec lui, vous allez voir, c'est des super produits. Et puis, bon an, mal an, on s'est dit, mais oui, en fait, il faut qu'on mette en valeur tous les produits qui se font dans le Maine-et-Loire, voire la région, parce qu'on ne pouvait pas se concentrer que sur le Maine-et-Loire. Et ça nous a pris pas loin de 9 mois pour compiler un petit peu tout ce qui se faisait dans le département à l'époque. Donc, ça a beaucoup évolué depuis. On rencontrait beaucoup de personnes qui travaillaient essentiellement sur la vente directe à la ferme ou sur les marchés et en lien direct avec des restaurateurs. Mais des petites boutiques comme la nôtre, en fait, en 2014, il y en avait très, très peu. Donc, un gros travail de recherche. Et puis, bien sûr, on ne pouvait pas travailler avec tout le monde. Il y a le feeling, bien sûr, qui a joué. Et puis, les produits. Hein. Donc, on a travaillé beaucoup avec la production de légumes. Alors, je pense à légumes et fruits. Je pense, par exemple, à Monsieur Coinet, qui est sur Saint-Sylvain d'Anjou, qui a des pommes et un verger extraordinaire. Donc, ces pommes sont vraiment excellentes. Il fait du jus de pomme aussi et ça a été une belle rencontre avec lui. On travaille aussi avec un producteur d'œufs. Donc, c'est Armel, qui a je ne sais combien de poules maintenant parce qu'il a un peu évolué lui aussi. Et c'est vrai que lui, par exemple, il a fait toute sa production de céréales en bio pour pouvoir nourrir ses poules et donc d'avoir des œufs bio et puis un bien-être de l'animal qui était aussi important pour nous. Et puis, bien sûr, la qualité de ses œufs s'en fait ressentir. Et puis, après, pour partir sur l'épicerie fine, on a rencontré, bien sûr, des personnes qui travaillent les fromages, la crèmerie. Moi, je suis un petit peu adepte de tout ça, donc je me suis régalée. Et puis, après, il y a eu les miels. Je pense à Hélène Berthaud, qui se lançait peu de temps avant notre projet de création de magasin épicerie fine et fruits et légumes. Et elle, voilà, on l'a accompagnée aussi dans son développement. C'est super. Il y a toujours une bonne entente. On est toujours en train de se dire, bon, comment ça se passe, est-ce que au niveau de l'activité tout va bien, parce que pareil les abeilles, ben on en parle, il y a eu des chutes de production de miel par rapport aux pesticides hein, qu'on peut retrouver un petit peu dans les campagnes. Donc elle s'entoure aussi de jeunes agriculteurs qui sont en bio pour pouvoir mettre ses ruches à proximité de ces espaces dits bio. Voilà, c'est tout un concept comme ça où on essaye d'avoir des gens qui soient un petit peu dans la même philosophie, c'est-à-dire de retrouver le terre à terre, quoi. C'est-à-dire vraiment retrouver les choses de bon sens, un petit peu comme l'agriculture paysanne qu'avaient nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Et puis arrêter le productivisme à tout va et des produits sans saveur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui faut nourrir le monde, mais il y a manière de nourrir aussi quoi. Et donc nous on a privilégié la qualité, les saveurs et puis bien sûr avoir un relationnel avec nos producteurs qui soit super important. Voilà, je pense aussi aux nouveaux qui sont arrivés dans Saveurs du Primeur, parce que quand on s'est lancé, il fallait trouver des producteurs, fallait aussi les convaincre de travailler avec nous, ce qui n'était pas forcément évident. Deux petites nanas là qui se présentaient, c'est pas toujours évident quand on a affaire aussi à des gens qui sont de la campagne, voilà, qui se disent ouais, qu'est-ce que c'est que ces deux filles là qui veulent monter leur petite entreprise dans le centre d'Angers. Pour certains, on faisait figure un petit peu de fifi qui veulent jouer à la marchande justement, et puis finalement avec le temps ils se sont rendus compte que voilà, c'était pas un jeu non plus.
Là, on se trouve dans une année un peu particulière. Votre particularité à vous, au Saveur du Primeur, c'est que lors de ce deuxième confinement, vous êtes resté ouvert, même si évidemment, il y a des choses qui se sont passées différemment. Est-ce que tu peux nous parler de cette situation, aussi nous parler de la réouverture récente des commerces et du climat actuel que tu sens, en fait, et tout ça par rapport à l'impact sur le magasin?
Oui, bien sûr. Alors déjà, on était ouvert pendant le premier confinement. Donc, ça a été une grosse période d'adaptation et j'en parle un petit peu parce que ça nous a permis de mettre des protocoles en place et on a souhaité vraiment faire attention à la santé de nos clients, mais aussi à la santé du magasin, c'est-à-dire nous et puis Mélodie qui travaille avec nous aussi. Donc, on a tout de suite intégré d'avoir que deux clients dans le magasin. Et puis de tout servir pour éviter que les gens touchent à tous les produits et diffusent finalement le virus. Donc ça a été assez contraignant, les clients n'ont pas toujours compris, mais la plupart nous ont remercié d'avoir ce protocole et de se sentir en sécurité en fait en venant dans le magasin. Donc ça a été un peu compliqué au premier confinement, puis on s'est bien rodé finalement. Et on avait déjà eu l'idée de faire un site internet marchand pour que les gens puissent commander en ligne, parce qu'on est quand même dans une ville où les gens travaillent à différents horaires, que ce soit de jour comme de nuit, et pas toujours évident pour certains à pouvoir faire leurs courses par rapport aux horaires du magasin. Et puis finalement, ce site internet s'est développé entre les deux confinements, on va dire. Et on était prêt pour le deuxième. Donc le deuxième confinement, on était ouvert. Rien à voir avec le premier où finalement les gens se sont trouvés un soudain regain de cuisine, de vraiment cuisiner leur propre repas et puis pour toute la famille, que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner finalement. Il n'y avait pas de cantine, pas de restaurant. Très peu de livraison de restaurateurs sur le premier confinement. Et puis le deuxième, par contre, là, on a vu des gens qui travaillaient quand même, et heureusement, parce que l'économie en a besoin. Et puis nous, il a fallu qu'on se réadapte à ça, et on a continué à proposer nos paniers de fruits et légumes à la semaine en click and collect. Et ça s'est bien développé, par contre, pendant le deuxième confinement. Donc finalement, on avait créé le magasin pour le contact, pour le partage, pour vraiment échanger avec nos clients. Et puis finalement, et on se rend compte qu'avec le click and collect ou tout ce qui est internet, ben on est obligé de changer un petit peu nos manières de vendre et puis de s'adapter par rapport à cette maladie qui, ben, on l'espère, va vite s'arrêter parce que c'est terrible. Donc voilà, après on essaye d'accompagner aussi les restaurateurs. Nous, à notre niveau, on travaille aussi en click and collect avec eux. On essaye de les faire fonctionner parce qu'ils nous font fonctionner aussi. Et ben, c'est vrai que les gens ont une autre manière de consommer aujourd'hui. Donc certains ont pris conscience de vraiment faire travailler les petits commerçants de proximité. Et puis d'autres qu'on voyait pendant le premier confinement parce qu'on était limité dans les déplacements, ben aujourd'hui on les voit plus. Je pense qu'ils ont repris leur manière de consommer, alors soit dans les grandes surfaces ou sur les marchés, puisque pour mémoire, les marchés étaient fermés aussi pendant le premier confinement. Voilà, alors c'est un autre contexte. On essaye de s'adapter finalement au jour le jour et en fonction des annonces du gouvernement.
Dans l'élan de ce que tu es en train de dire, on observe, enfin je pense qu'on observe tous en ce moment et depuis un petit moment qu'il y a un regain en fait dans la manière de consommer local. Est-ce que toi tu le sens? Est-ce que dans le magasin vous le sentez déjà par rapport à vous? Et même j'ai l'impression que vous êtes assez axé soutien en fait aux autres commerçantes et commerçants indépendantes des alentours. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, ta vision en fait de la consommation des gens et de l'attention qu'on apporte en fait aux produits locaux?
Oui, en fait, oui, nous, on l'a remarqué. Ben déjà, quand on s'est installé, on a bien vu qu'il y avait cette demande. Et puis, moi, j'ai vu depuis les confinements successifs, on va dire, que les jeunes sont beaucoup plus axés sur tout ce qui est production locale. On en avait déjà. Mais alors là, c'est plus flagrant parce que les jeunes sont quand même moins présents que l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins d'étudiants qui circulent en ville. Les facs sont fermées. Beaucoup sont rentrés chez eux. Ils vont pas payer un loyer sur Angers pour suivre des cours en visio et c'est bien normal. Mais c'est vrai qu'on voit un peu moins de jeunesse circuler dans notre quartier. On est quand même entre le centre-ville et la fac Saint-Serge, fac de pharmacie, fac de médecine, entre autres. Donc, nous, c'est un quartier qui bouge énormément. Et là, ce manque de vie est flagrant, quoi. Et par contre, les jeunes qui sont restés là, tout de suite nous ont dit, ben voilà, j'ai envie de consommer autrement. Ça m'a fait prendre conscience qu'aujourd'hui, il fallait qu'on... on avait un impact, en fait, politique dans nos actes d'achat. Et faire consommer local, c'est aussi faire travailler plein de petites entreprises. Il faut savoir que, par exemple, Saveur du Primeur, c'est une petite boutique. Mais on fait travailler pas loin d'une centaine d'emplois. Donc, c'est quand même énorme. Et c'est de l'emploi local et c'est de l'emploi non délocalisable. Donc, à chaque fois qu'on rentre dans Saveur du Primeur, bah derrière, on fait fonctionner toute une économie. Et on sait que c'est essentiel, puisque c'est le mot à la mode en ce moment, c'est essentiel de les faire travailler. Et voilà, nous, on essaye à notre niveau de faire travailler les gens qui sont dans les campagnes. On est vraiment un lien entre les citadins et les ruraux et c'est hyper important.
On parlait en off tout à l'heure des enjeux actuels, pour citer par exemple les manifestations contre la loi de sécurité globale et des enjeux que vous avez ressentis au magasin en fait sur le premier rassemblement. Est-ce que tu peux nous partager par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure? Ta vision en fait sur l'avenir de manière globale et ce que toutes les choses qui nourrissent ce climat actuel vont engendrer selon toi ou engendrent déjà sur votre activité à vous et tout cet écosystème en fait local et indépendant.
Oui, alors c'est vrai que ces manifestations, moi je les trouve tout à fait justifiées, hein. Si on pouvait manifester, on le ferait bien évidemment, mais on se rend compte que ben, c'est important aussi quand on a une petite structure comme la nôtre, on n'a pas le choix de rester ouvert. Malheureusement, et en plus, on se le doit encore plus par rapport à ceux qui sont obligés d'être fermés. Je pense à tous mes amis restaurateurs et je les plains, les pauvres, et je sais qu'il y en a beaucoup qui font le maximum pour survivre avec le click and collect, mais c'est très très difficile et les aides sont vraiment insuffisantes pour beaucoup pour survivre. Donc oui, les différentes manifestations qu'on avait subies avec les gilets jaunes, avec encore l'année dernière, on avait eu beaucoup de manifestations et de grèves liées au nouveau système de retraite. Et puis voilà, il faut que le peuple puisse s'exprimer, bien évidemment, mais c'est vrai que pour des petites boutiques de centre-ville qui vivaient exclusivement du passage, hein. Pour beaucoup, on vit du passage de personnes dans la rue et puis ils s'arrêtent, ils disent, tiens, on va rentrer dans cette boutique. Ben, forcément, c'est un frein dès qu'il y a des manifestations et le chiffre d'affaires de la journée, souvent c'est la plus grosse journée, le samedi, c'est un impact direct. Et beaucoup étaient déjà fragilisés avant le Covid. Avec ces différentes années où c'était très très compliqué de tenir, surtout les mois de novembre et décembre. Pour beaucoup, c'est les chiffres d'affaires les plus importants de l'année. Donc là, c'est ce que je disais, c'est que y a besoin à ce que les gens s'expriment, surtout avec ces confinements. On s'est tu, on a accepté beaucoup de choses. Et puis, on a besoin de se retrouver aussi. La manifestation, ça en fait partie. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre manière de se réinventer là-dessus et de se dire, attention, quand on manifeste, on fragilise encore plus ceux qui sont déjà très, très fragiles. Est-ce qu'il y a des moyens de manifester, de s'exprimer, où on peut préserver aussi ses emplois? Et ces gens qui sont complètement dans la détresse et qui luttent pour vivre et qui demandent pas d'aide en plus. Pour la plupart, ils acceptent les aides parce que c'est une question de, voilà, il faut qu'ils puissent manger, mais certains n'ont plus 1 euro pour pouvoir manger chez eux le soir. Et c'est des familles aussi, c'est parce que c'est des patrons, ce sont des petits patrons qui bien souvent ne touchent même pas le SMIC. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui animent les centres-villes? Aussi, et on est bien content de les trouver quand on va se balader, d'aller prendre un petit pot l'après-midi après avoir passé quelques heures dans certains magasins. Ben, c'est aussi la vie de notre ville et faut pas les oublier. Donc voilà, je comprends les manifestations, bien évidemment, mais j'ai aussi ce côté-là où ça me fait un peu mal au cœur de voir des gens qui n'arrivent pas à travailler alors qu'ils ne demandent qu'une seule chose, c'est justement d'être auprès des autres et de simplement gagner leur vie et d'être, de suivre un petit peu le mouvement, mais d'être. De sortir de tout ça, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais je suis un petit peu émue en disant ça parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont touchés et ça fait mal au cœur.
Alors, avant de clôturer cette rencontre sur une playlist feel good de ton choix, est-ce que tu as une note d'espoir à nous partager au-delà de tout ça sur le futur qui se compte en mois, en années
Déjà, j'espère qu'on va vite pouvoir sortir du Covid. Alors, je ne sais pas comment, mais de toute façon, il y aura une fin. Ça ne peut pas durer à vitam aeternam comme ça. Donc voilà, faut l'envisager. Et puis, j'espère que les gens vont réfléchir et continuer à se dire, quand je fais des achats, je les fais où et je les fais comment et je les fais pour qui? Et pas seulement avoir que le côté purement égoïste et d'avoir cette chose que je veux absolument, mais de se dire, quand j'achète quelque chose derrière, j'achète aussi et je fais vivre plein de gens. Et qui je veux faire vivre. Voilà, ça c'est super important pour moi. Je l'applique déjà dans ma vie et j'espère que ce courant va se développer, ce qui se développe déjà. Et finalement, bah, les producteurs bah, répondent aussi à ça. Donc, d'avoir un nouveau genre de production, d'aller plus vers l'écologie, de produire autrement, de manger mieux, de peut-être manger moins, mais meilleur. Voilà, qu'est-ce qu'on veut comme société? Et finalement, ben, je pense que le Covid, quelque part, pour beaucoup, ça aura permis à leur faire réfléchir à tout ça. En tout cas, j'espère que... moi, j'ai beaucoup de confiance en la jeunesse aujourd'hui. C'est vrai, c'est eux qui poussent vraiment dans ce sens-là. Et moi, je suis à 100% d'accord avec eux. Il faut qu'on les accompagne. Il faut arrêter de dire que les jeunes, ils foutent la merde ou que c'est eux qui amènent le Covid. C'est du n'importe quoi, tout ça. Faut les accompagner. Voilà, faut arrêter d'être dans nos certitudes et de les écouter davantage. Voilà, c'est ça ma lueur d'espoir, en tout cas, aujourd'hui. Le maître mot, c'est la jeunesse.
Bon, on est bien d'accord. Eh bien, écoute, merci pour cet échange hyper, hyper intéressant. On est très, très contents de d'en avoir parlé avec toi. On va continuer, du coup, sur une playlist... de votre choix, de toi et Claude. Est-ce que ça te dit de présenter le premier morceau que tu as choisi?
Moi, j'adore Aretha Franklin. Je prendrais... parce que ça, c'est vraiment un feel good pour moi. Et c'est Think, je crois, que je prendrais.
Super. Eh ben, on va s'écouter ça tout de suite. Encore merci, Laurence. Et à très bientôt, en tout cas.
Merci beaucoup, Sarah, et puis bonne continuation à votre émission et à Campus. Et puis, bah, tenez le coup, les jeunes, ça va le faire.
un télépile et ton prénom. Tu sais très bien que je vais céder la première. Tu sais très bien comment me faire vriller la première. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Tu connais mes envies et j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je vais céder la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête. Je le sens dans mon cœur, dans mes veines. Ton parfum, ton cri, dans mes draps. Ton prénom est un délépile dans mes pensées. Très bien comment me faire rêver, tu sais faire. Tu sais très bien comment te défiler, tu sais faire. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Je connais toutes tes vices et j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je vais replonger la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête. Je le sens dans mon cœur, dans mes veines. Ton parfum est ancré dans mes draps. Ton prénom est indélébile dans mes pensées. Ton prénom est indélébile dans mes pensées.
Nada. Why is it done in a day? Why is it done in a day? First you give me so much and right away. Why am I the one who leaves? Why am I the one who leaves? On my way out a little tiny seed. Feeling so lost and mine up afraid. Coming to dust and nothing's it protected. Feeling so lost and am I afraid? If we are done, never coming back again, nada. Never back again. Ooh, pasa, 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 nada. Never back again. Never, ever, ever coming back again, nada. Never back again. Ooh, pasa, 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 nada. Tell me why you hurting. Hands on the floor. Wait, why is it just screening? Hiding in showers. It must be for something. If not for love. Nada. Never back again. Never ever ever coming back again. Nada. Never back again. Ooh, pasa 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 nada. Never back again, never ever ever coming back again, nada. Never back again. Ooh, pasa 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 nada. Never back again, never ever ever coming back again, nada. Never back again. Ooh, pasa 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 nada. Never back again, never ever ever coming back again, nada. Never back again.
se pasa nada.
Yeah.
fishing boats sail past the shore. No singing, May Day anymore. The sun is shining, the water's clear. Just you and I walk along the pier.
Vous êtes toujours dans La Parole aux Indés sur Radio Campus Angers. On vient d'écouter The Sea de Morcheeba. Et tout de suite, Manu va vous parler d'un être cher à son cœur.
On a tous une Madeleine de Proust. Une saveur, une odeur, une sonorité qui nous ramène plusieurs années en arrière. Un bref moment où le temps suspendu nous permet d'entrevoir à nouveau ce que furent nos émotions passées. Alors pour vous, ça peut être un plat familial, ça peut être l'odeur d'un parfum que portait un être cher, ça peut être aussi un lieu dans lequel, il y a plusieurs années, vous avez ressenti une émotion qui, de par sa force, est restée gravée en vous de façon immuable. Alors, pourquoi vous parler de ça ? Bah parce qu'aujourd'hui, j'avais l'envie de vous parler de la mienne, de Madeleine de Proust. Et elle a un nom. Elle s'appelle Charles Bradley. Alors Charles Bradley, c'est une vie de galère. marquée par l'expérience des rues du Brooklyn des années 60, des petits boulots de cuisinier dans le fin fond de l'Alaska et dans des hôpitaux psychiatriques. C'est aussi la mort de son frère, tué par balle, par son neveu, dans les années 70. Charles Bradley, c'est surtout la sortie d'un premier album, à 61 ans, un âge où la plupart tirent leur révérence artistique. C'est le cri déchirant d'une voix marquée par les années et les galères, par les échecs, et par en toile de fond, la voix du boss, James Brown, dont le concert en 62 à l'Apollo donna envie au jeune Charles d'un jour suivre la voie de son idole. Charles Bradley est mort à 68 ans, en 2017, d'un cancer de l'estomac. Sa carrière n'aura duré que 6 ans, laps de temps durant lequel il aura marqué de son empreinte vocale si particulière celles et ceux qui auront eu la chance de le voir en concert. J'ai en souvenir ce jour de septembre 2017, où l'on a appris son décès. Nous devions le voir quelques mois plus tard au Stéréolux de Nantes. Ce jour-là, nous avons eu l'impression de perdre un ami, que nous n'avons pourtant jamais connu, et avons écouté sa soul magnifique toute la nuit, à un volume sonore déraisonnable. Quand j'ai commencé cette chronique en parlant de Madeleine de Proust, c'est parce que la musique de Charles Bradley a été la toile de fond de mes premières années de vie adulte. Et encore aujourd'hui, l'écoute de la première note d'un de ses morceaux me ramène irrémédiablement dans l'appartement nantais où j'habitais. Si cette chronique a, comme je l'espère, titillé en vous l'envie d'écouter la musique de Charles Bradley, je ne peux que vous conseiller de regarder l'une de ses performances live. Vous y verrez, dans ce visage suant, dans ses costumes à paillettes, à la limite du kitsch, il faut bien le dire, le poids d'une vie menée au forceps, qui n'a connu une fin heureuse qu'en approchant de son dénouement. Voilà, c'est la fin de votre émission du lundi à 13h, La Parole aux Indés. On a eu beaucoup de plaisir à la préparer encore une fois avec Sarah, et on remercie notre ami Félix et sa super moustache pour sa compétence sur la partie technique. On remercie également Radio Campus Angers qui nous fait confiance semaine après semaine, et on vous invite à mettre un petit follow sur notre page Instagram si vous voulez être au courant des nouvelles émissions, et vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast. On va se quitter avec une chanson, bien sûr, de Charles Bradley. Ça s'appelle Why Is It So Hard. C'est issu de son premier album No Time For Dreaming, et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut.
But I couldn't get away. No matter how far I went, seemed like nothing gonna change. Everything still remained the same. In America.
C'était La Parole aux Indés sur Radio Campus Angers. À lundi prochain.